Il est 19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 17 mars 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Timothée Donongmaï. Bonsoir Tim.
Bonsoir Morgane et bonsoir à tous.
À la une de cette édition, la violence fait de nouvelles victimes à Bangui.
Ailleurs, à l'intérieur du pays, les combattants de la Séléka ont froidement abattu deux personnes à Batangafo, dans le nord.
Les leaders religieux centrafricains sont en visite à Washington DC. Nous partirons aussi à leur rencontre. Au Burundi, suspension temporaire d'un important parti d'opposition.
Nous avons demandé à nos membres de rester calmes, de ne pas s'en faire. Nous allons travailler autrement.
Barack Obama condamne le référendum en Crimée et annonce de nouvelles sanctions contre la Russie. Nous parlerons aussi de l'intensification de la lutte anti-tabac au Sénégal. Sans oublier nos pages sport et musique, mais avant, le journal.
En RCA, les violences ont fait aujourd'hui deux morts et plusieurs maisons incendiées à Bangui. Parmi les victimes figurent soldats des forces armées centrafricaines FACA. Par ailleurs, les multiples explosions de grenades ainsi que des tirs à l'arme automatique ont obligé de nombreux habitants du quartier Fondo dans le 3e arrondissement à fuir leur habitation. On fait le point avec Michel Joseph.
Le corps inerte du militaire a été retrouvé dans le quartier du PK5, fief des musulmans, aux environs de 11h locales. Ousmane Abakar, porte-parole des musulmans centrafricains, reconnaît que l'homme a été tué par des jeunes musulmans mécontents qu'il accusait d'espionnage. Pour un prédicateur de la mosquée centrale, la victime est un combattant de l'ex-Séléka, reconverti en anti-Balaka. La seconde victime, un professeur, a été tué par des hommes armés en début d'après-midi dans le quartier Yambassa, toujours dans le 3e arrondissement. Des sources dans le 5e arrondissement ont fait état d'échanges de tirs entre des anti-Balaka et des éléments burundais de la MISCA. Ces incidents ont fait une dizaine de blessés qui ont été acheminés à l'hôpital par trois ambulances avec l'assistance des jeunes musulmans de l'arrondissement, a expliqué Moussa Ibrahim Mamadou, secrétaire général de l'Union des jeunes musulmans centrafricains. Ailleurs, à l'intérieur du pays, les combattants de la Séléka ont froidement abattu deux personnes et grièvement blessé une autre ce lundi à Batangafo, dans le nord.
Les autorités burundaises ont suspendu pour 4 mois l'un des partis d'opposition, le Mouvement pour la solidarité et la démocratie. Le leader du parti, Alexis Sindouindje, et 71 militants ont été inculpés la semaine dernière d'insurrection en rapport avec des incidents survenus le 8 mars dernier à la permanence du MSD à Bujumbura. La réaction de Maître François Nyamuya, secrétaire général du MSD.
Il prétexte qu'on a fait de la rébellion, qu'on a fait des troubles à la permanence, etc. Personnellement, je ne vais pas m'y étendre parce que tout le monde est témoin, que ce soit la communauté internationale, les médias et la société civile, que les infractions qui sont reprochées au MSD ne sont pas fondées. En plus que cette mesure, elle est prise quand on compare aux organisations qui sont proches du pouvoir, qui commettent des crimes et qui restent impunis. Bref, pour nous, ce sont des prétextes. Mais en ce qui nous concerne, nous avons demandé à nos membres de rester calmes, de ne pas s'en faire. Nous allons travailler autrement en attendant et nous avons demandé à tous nos militants de respecter cette mesure, pas vraiment respecter, de s'incliner devant cette mesure pour ne pas donner de prétexte à d'autres mesures.
Voilà, c'était Maître François Nyamoya, secrétaire général du MSD. Le président sénégalais Macky Sall est arrivé aujourd'hui en Casamance, dans le sud du pays, où persiste la rébellion du mouvement des forces démocratiques de Casamance. À son accession au pouvoir, il avait dit qu'il ferait de la résolution de cette crise une de ses priorités. Le point à Ziguinchor avec notre confrère Abdoulaye Samou de Radio Futur Média.
Il faut dire que toute la Casamance s'est mobilisée pour venir accueillir le chef de l'État, justement qui va dès cet après-midi déjà lancé le programme pôle de développement de la Casamance qui concerne les trois régions naturelles de la Casamance, à savoir la région de Ziguinchor, celle de Kolda et celle de Sédhiou, pour un montant total de 23 milliards de francs. Le mercredi prochain, il va donc inaugurer l'université de Ziguinchor, à savoir donc l'université à Sansec. Vous savez, cette université a été construite déjà depuis 7 ans et elle porte le nom de l'illustre fils de la Casamance, le professeur Hassane Seck. Le mardi, il va recevoir l'ensemble des départements de la Casamance. Il va recevoir aussi de fortes personnalités et certainement des personnalités qui sont impliquées dans le processus de paix en Casamance, notamment le maire honoraire de Ziguinchor, Robert Sagnan, et tout cela qui s'active justement pour la recherche de la paix en Casamance.
Visite d'Ibrahim Boubacar Keïta à Mopti, dans le nord du Mali. Le président malien restera 72 heures dans la région. Mamadou Bokoum, notre correspondant sur place, nous en dit plus.
Le président de la République a un agenda bien fourni. Inauguration de l'hôpital Soumine Doulo de Mopti 6 à Sévaré, inauguration du central hydrique de Bankas et celui de Koro. Ibrahim Boubacar Keïta visitera également le lycée de Bandiagara dans le pays d'Ogom. Autre temps fort de cette visite, l'inauguration de la stèle dédiée aux morts pour le Mali au camp Balobo-Bari de Sévaré. Un camp qui a une renommée légendaire, nous dit le lieutenant-colonel Souleymane Maïga, directeur de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA.
Lors du repli de nos unités, c'est le camp militaire qui a abrité l'ensemble des forces qui ont replié, que ce soit de Tombouctou, de Gao, de Tessalit, de Kidal. Donc ils ont permis la réorganisation de nos forces pour remonter à l'offensive.
Cet engagement de ces hommes va être aussi récompensé par le chef suprême des armées à travers des décorations de certains éléments et le partage de repas de corps, le tout soutenu par un défilé militaire. Mamadou Bokoum à Mopti pour la Voix de l'Amérique.
Au Burkina Faso, l'ADF-RDA a tenu son congrès ce week-end. Ce parti clé de la majorité présidentielle a pris deux décisions importantes. D'abord, il réaffirme son opposition à la modification de l'article 37 de la Constitution limitant le nombre de mandats présidentiels à 2. Et plus surprenant, le parti qui avait soutenu Blaise Compaoré lors des dernières présidentielles a décidé de présenter son propre candidat à la présidentielle de 2015. L'ADF-RDA fait-il toujours partie de la majorité présidentielle au Burkina Faso ? Bakassi Koura a posé la question à Gilbert Ouédraogo, le président du parti.
Pour 2010, le président, l'option qui a été retenue, c'est qu'il a été le candidat d'une coalition de partis politiques. Et cette coalition, elle est valable de 2010 à 2015. Et nous sommes donc de la majorité. Et nous avons reconfirmé notre appartenance à la majorité. Ce qu'il y a, c'est que la coalition, comme vous le savez bien, c'est sur la base d'un programme, qui est le programme du candidat, que nous avons participé aussi à écrire avec les autres membres de la coalition. Nous avons battu campagne ensemble à travers une équipe conjointe. Et nous avons voté pour notre candidat qui a été élu. Pour la suite, nous n'avons pas encore engagé de discussion sur cette question. Et nous avions indiqué clairement que nous sommes pour la limitation, le principe de la limitation des mandats présidentiels afin de permettre un renouvellement de la classe politique. Donc c'est dit que les positions que nous défendons aujourd'hui sont des positions de principe qui sont conformes à nos textes organisationnels, à notre programme politique. Ils ne sont pas contre une personne, mais ce sont des positions de principe qui ont été affichées, qui étaient connues d'ailleurs depuis. Donc, ce ne sont pas nouvelles.
Voilà. Et donc, si ces principes sont respectés, Blaise Compaoré ne doit plus être candidat.
C'est à vous d'en tirer les conséquences.
La Côte d'Ivoire a démarré ce lundi une opération de recensement général de la population. Le dernier recensement du genre remonte à 1998, soit 16 ans. Cette opération, qui doit prendre fin le 16 avril prochain, a démarré sur fond de discorde, l'opposition estimant qu'elle est inopportune. Docteur Christophe Kwame, coordinateur de la société civile ivoirienne, souligne qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui entourent ce recensement.
Pour nous, le recensement général de la population en Côte d'Ivoire, dans une situation aussi sensible, devait faire l'objet d'une transparence absolue, dont la méthodologie devait être partagée par les parties prenantes, c'est-à-dire l'opposition, la majorité, qui est le FPI. Deuxièmement, comme vous devez le savoir, après la crise post-électorale, une grande partie des personnes exilées sont en majorité des personnes proches du FPI. La question que nous posons à la date d'aujourd'hui, est-ce que des dispositions ont été prises pour que ces personnes qui sont en majorité au Libéria et au Ghana soient recensées pour faire partie de cette liste, si tel est qu'après ce recensement général, on va en puiser là-dedans pour faire la liste électorale. Donc je pense que c'est un nombre de préoccupations auxquelles le gouvernement devait répondre pour rassurer le FPI qui a déclaré déjà qu'il ne voulait pas de ce recensement général.
Attentat à la voiture piégée à Benghazi dans l'est libyen. L'explosion s'est produite près d'une caserne tuant au moins 5 militaires. Des sources militaires et hospitalières comptent aussi une dizaine de blessés.
Sachez aussi que la marine américaine a saisi le Morning Glory et c'est ce qu'annonce le Pentagone. Le pétrolier transportant du brut libyen, illégalement vendu par des rebelles, a été arraisonné hier soir au large de Chypre dans la mer Méditerranée. L'arraisonnement du Morning Glory avait été demandé par les gouvernements libyens et chypriotes, puis approuvé par le président américain Barack Obama.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama a promis le soutien inébranlable des États-Unis à l'Ukraine suite à la déclaration d'indépendance de la Crimée et le référendum d'hier sur le rattachement de ce territoire à la Fédération russe. Jean-Roger Bion.
Le leader américain a d'abord rappelé la position non équivoque des États-Unis et de ses alliés vis-à-vis du vote qui s'est tenu hier en Crimée.
As I told President Putin yesterday, the referendum in Crimea was a clear violation.
Prenant la parole à la Maison Blanche, M. Obama a déclaré que le référendum en Crimée est une violation du droit international et ne sera pas reconnu, comme il l'a dit hier au président russe Vladimir Poutine. Le vote sur le rattachement de la Crimée à la Russie ouvre la voie à une nouvelle confrontation Est-Ouest, à commencer par les sanctions prises contre Moscou, lesquelles vont être renforcées.
First, as authorized by the executive order I signed 2 weeks ago. We are imposing sanctions on specific individuals responsible.
Les sanctions déjà autorisées par le Congrès visent ceux qui portent atteinte à la souveraineté et à l'intégrité de l'Ukraine.
As an initial step, I'm authorizing sanctions on Russian officials.
Un nouveau décret du président Obama impose des sanctions contre des responsables russes et des individus offrant un appui matériel aux hauts responsables du gouvernement russe. La Maison-Blanche a annoncé le gel des avoirs de 11 responsables russes liés à l'impulsion politique pour l'indépendance de la Crimée et la possible annexion de ce territoire par la Russie. L'annonce suit une démarche similaire par l'Union européenne.
Toujours pas de traces du Boeing 777 de Malaysia Airlines, disparu le 8 mars. On pense désormais que l'avion transportant 239 personnes a été détourné. Le point avec Lionel Gaïma.
En partance de Kuala Lumpur, le Boeing aurait soit pris la direction du nord vers l'Asie centrale, soit la direction du sud vers l'océan Indien. La destination prévue était Pékin. 26 nations sont impliquées dans les recherches qui s'étendent sur 11 pays, aussi bien en mer que sur terre. Les fouilles s'étendent sur des dizaines de millions de kilomètres carrés. Pendant ce temps, les enquêteurs malaisiens examinent de plus près les derniers contacts avec l'avion avant qu'il ne disparaisse des radars. Le dernier message depuis le cockpit semblait très serein. « Tout va bien, bonne nuit », aurait dit le copilote. On sait aussi que le système de signalisation a été partiellement désactivé, voire éteint, empêchant toute nouvelle détection de l'avion. Mais on ne sait pas si cette mesure a été prise avant ou après cette ultime communication. Le copilote présumé, qui n'a signalé aucun problème, pourrait avoir tenté de tromper les aiguilleurs du ciel. Il pourrait aussi avoir agi sous la contrainte d'une personne connaissant le fonctionnement de l'avion.
Crise en Syrie, la fuite des rebelles vers la vallée de la Beka au Liban continue après la chute de leur bastion à Yabroud. En conséquence, l'armée libanaise a envoyé aujourd'hui des commandos à la frontière syrienne. La défaite des rebelles à Yabroud a provoqué l'exode de plusieurs centaines de réfugiés.
Rencontre Obama-Abbas aujourd'hui à la Maison-Blanche. Le président américain a exhorté son homologue palestinien à faire des choix difficiles et prendre des risques afin d'aboutir à un accord de paix avec Israël.
Enfin, la Corée du Sud accuse son voisin nord-coréen de provocation. C'est après le lancement par Pyongyang de 25 missiles de courte portée.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guiriec et Timothée Donangmaï. Suite de la visite aux États-Unis de 3 leaders religieux centrafricains, cette semaine, l'archevêque Zapalanga, l'imam Layama et le révérend Gbangou sont à Washington pour prêcher la paix et aider la Centrafrique. Nicolas Pinault les a suivis pour la Voix de l'Amérique.
Oui, les trois hommes ont été froidement accueillis ce matin par la neige qui a recouvert la capitale fédérale américaine. Munis de bonnets et de gants, les religieux ne se découragent pas pour autant. comme l'explique le révérend Nicolas Gerekoya Bangou.
On peut supporter le froid pour prêcher la paix. C'est des épreuves qui peuvent se transformer en mission de la paix. Lorsqu'on a reçu un appel, qu'on doit défendre une cause, et surtout une cause noble comme celle que nous sommes en train de défendre, je ne vois vraiment pas pourquoi on doit se plaindre. Donc pour moi, m'engager pour mon pays en cette période difficile, je ne regrette pas.
Après leur rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, au sujet de l'envoi des casques bleus en Centrafrique la semaine dernière, les trois leaders religieux attendent aussi une aide financière massive pour leur pays de la part des Américains. L'imam Omar Kobin Layama.
Si nous sommes venus à Washington apporter la voix des Centrafricains, du peuple centrafricain qui est meurtri, pour demander l'appui des États-Unis, présenter aussi la situation humanitaire de ce peuple.
Jusqu'à vendredi, les trois leaders religieux vont rencontrer des membres du Congrès, du Département d'État et du Conseil national de sécurité, entre autres. La démocratie américaine, un modèle pour une Centrafrique à la dérive, selon l'archevêque de Bangui, Dieudonné Nzapalainga.
On le dit souvent, l'union fait la force. Étant aux États-Unis, nous comprenons bien que les États-Unis d'Amérique, parce qu'ils sont unis, ils mènent un combat et ils réussissent. Si nous sommes unis, nous pensons que notre combat aura du sens, notre combat pourra nous propulser plus loin et nous portons la voix de tous ces Centrafricains-là qui aspirent à la dignité, à l'unité, finalement au relèvement.
Les trois hommes se rendront ensuite en Europe pour continuer à prêcher la paix. Ils ne rentreront à Bangui que début avril. Nicolas Pineau, Washington, La Voix de l'Amérique.
Au Sénégal, l'Assemblée nationale vient de voter une nouvelle loi anti-tabac. Elle interdit de fumer dans les espaces publics, interdit la vente de tabac à proximité des établissements scolaires et aussi toute publicité autour des produits du tabac. La législation doit encore être promulguée par le président Macky Sall. Pour les ONG anti-tabac, il s'agit là d'une grande avancée pour le Sénégal. Jacques Aristide a recueilli la réaction du docteur Abdoul Aziz Kassé, président de la Ligue sénégalaise contre le tabac.
Une taxation forte qui suit le coût de la vie permettrait de diminuer le nombre de fumeurs, c'est-à-dire la cigarette risque de ne plus être accessible aux jeunes et aux pauvres, donc ça diminuerait le nombre de fumeurs. Cela augmenterait clairement les recettes fiscales de l'État. Désormais, il ne sera plus possible, sous quelque forme que ce soit au Sénégal, de faire de la publicité, de la promotion ou du parrainage direct ou indirect. Il est clair que le fumeur a le droit de fumer, mais celui qui lui vend le tabac doit lui montrer exactement ce que ces personnes fument et quels en sont les dangers. Si nous mettions des images et des photos en couleur sur les deux grandes faces et occupant 70% de la surface du paquet, ça, c'est quand même une mesure, à mon avis, qui est extrêmement importante. Ensuite, malheureusement, le ministère de la Santé a insisté pour que soient mis en place des espaces fumeurs. Bon, nous essayons de nous battre pour que ces espaces fumeurs soient le plus réduits possible. Donc, nous pensons qu'il y a là source de bataille à continuer pour éviter que les fumeurs n'enfument des non-fumeurs et ne tuent leurs femmes, leurs enfants, leurs collègues de travail et leurs contacts. Enfin, les députés de la République du Sénégal ont insisté pour obtenir que les sites religieux soit des espaces 100% non-fumeurs.
Mais le Sénégal s'est doté depuis 1981 de plusieurs lois, mais qui n'ont pas eu un impact significatif d'après une récente étude. Êtes-vous confiant que la nouvelle loi va apporter les résultats escomptés?
Je n'ai pas une boule de cristal. La seule chose que je sais, ce qui existait avant n'existe plus. Cette société civile n'existait pas en 81 quand, au bout de 4 ans, les ingérences de l'industrie du tabac ont réussi à faire modifier les dispositions réglementaires. Ce ne sera plus possible.
On sait que l'Afrique est désormais un marché important pour les compagnies de tabac qui perdent du terrain ailleurs dans le monde. Est-il vraiment possible de mener campagne contre elles?
Nous nous y attelons parce qu'aujourd'hui, c'est le Sénégal, mais les autres pays vont s'inspirer de ce que le Sénégal a fait.
Le docteur Abdoul Aziz Kassé, président de la Ligue sénégalaise contre le tabac, joint à Dakar. Vendredi dernier, un camion transportant 22 enfants mineurs en provenance de Guinée a été intercepté au Sénégal. Les jeunes adolescents qui s'y trouvaient devaient être conduits sur des sites d'exploitation minière pour y travailler. Au micro de Claire Morin-Gibourg, nous écoutons Yves-Olivier Kassoka, chargé de la protection de l'enfance pour l'UNICEF à Dakar.
Globalement, il faut noter qu'il y a une population en mouvement. Et cette mobilité des populations aussi implique les enfants. Des enfants qui sont mis en mouvement pour diverses raisons, pour des raisons économiques, parfois pour des raisons d'éducation, parfois aussi pour souvent des stratégies, disons, de survie. Parce que, étant dans des zones arides, des zones où il ne pleut plus assez, où les terres arables se raréfient, donc certains préfèrent migrer vers les centres urbains, etc., pour des raisons économiques. Donc tout ceci fait qu'il y a un mouvement continu de population et les enfants sont fortement impliqués.
Donc pour vous, ce n'est pas forcément toujours un trafic d'enfants?
Oui, à l'origine, ça peut ne pas consister en un trafic d'enfants, mais à terme, ça peut, disons, revêtir des aspects de trafic. Parce qu'en réalité, les enfants qui sont mis dans des situations de travail sont amenés à contribuer aux charges familiales, soit la famille au village ou la famille dans un pays limitrophe. Donc, au bout du compte, ça se retourne comme étant un trafic. Mais il faut dire, à côté de cela, il y a des processus volontaires de transfert d'enfants à des fins économique, à des fins d'exploitation, à des fins de travail domestique pour contribuer aux charges du ménage, comme on dit.
Vous êtes chargé de la protection de l'enfance à l'UNICEF. Comment concrètement vous pouvez lutter contre ces trafics d'enfants?
Il faut appliquer la loi, elle existe, mais elle est faiblement appliquée ou insuffisamment appliquée. Il faut travailler, avoir un cadre institutionnel où, au niveau des frontières, les dispositifs de contrôle sont là, pour prévenir tous les mouvements de population, un dispositif de surveillance. Et cela va impliquer, de la part des autorités sénégalaises, une coopération avec les pays au niveau de la sous-région.
Yves-Olivier Kassoka, chargé de la protection de l'enfance pour l'UNICEF à Dakar.
Le Monde aujourd'hui, nous partons maintenant au Burkina Faso où vient de se tenir une foire agro-silvo-pastorale. C'était dans la région des Cascades, à la frontière avec le Mali et la Côte d'Ivoire. Grenier du Faso, cette région arrive-t-elle à mettre son potentiel en valeur? Telle est la question posée lors de cette foire qui a regroupé 500 exposants et des invités d'honneur venus du Mali et de la Côte d'Ivoire. Le président burkinabé Blaise Compaoré avait lui aussi fait le déplacement. Reportage de Zoumana Wonogo.
La foire des Cascades, qui s'est tenue du 14 au 16 mars, a mis l'accent sur les technologies de transformation des produits locaux. Dans cet ordre d'idées, une dame a marqué les esprits des forains avec son couscous de Néré. On écoute Madame Monique Sirima.
J'ai fait du couscous de Néré qu'on peut manger dans du lait, faire du déré avec, qu'on peut manger avec de l'huile simple, soit faire une sauce tomate. En tout cas, tu peux le consommer comme tu veux.
À côté d'elle, un homme a aussi libéré son génie créateur en produisant de l'huile à partir du souché ou pois sucré, suivant le créateur Jean-Claude Pouda.
En premier ressort, c'est une huile alimentaire. Elle ne pénètre pas dans les aliments frits, donc tu consommes moins. Et ensuite, elle est bien pour les fritures. Vous faites une omelette, vous allez voir la différence nette avec les huiles. Et ensuite, elle est pharmaceutique. On va dire pourquoi? Parce que le diabète, il y a les rides de vieillesse, les mauvais cholestérol. Et trois, elle est cosmétique.
Des prix d'une valeur globale de 100 millions de francs CFA ont été décernés aux meilleurs dans divers secteurs. Le parrain de la foire, Joseph Bissiri Sirima, coordonnateur du MCA, Millennium Challenge Econ Burkina, est l'un des donateurs. Il nous dit pourquoi.
En tant que parrain, j'ai voulu primer les efforts d'un monsieur qui travaille sur le souché. Il fait un travail remarquable. Qui pouvait penser qu'on puisse extraire l'huile de souché? L'huile de souché est une des huiles les plus, j'allais dire, raffiné, parce que son équivalent là, c'est l'huile d'argan au Maroc.
Tout cela semble avoir subjugué le député maire de la ville de Caen en Côte d'Ivoire. il était invité d'honneur, suivant les sentiments du député maire Issiaka Ouattara.
À l'époque, on avait la Coupe nationale du progrès aussi, en Côte d'Ivoire, qui reconnaissait la valeur de nos braves paysans. Depuis le décès de Feu Félix Boigny, et s'est resté au calende grec, la foire du Burkina, me rappelle étrangement cette époque-là.
Mais l'art ne doit pas cacher la forêt des difficultés de financement des projets avec les banques de la place. En sorte de réponse aux cris du cœur des producteurs, voici ce que Blaise Compaoré a confié.
Il y a des réponses qui vont être trouvées. Mais je crois que l'essentiel aussi, c'est de savoir que pour transformer, il faut d'abord produire bien. Alors donc je crois que la qualité des productions, nous devons les accompagner aussi, surtout dans l'encadrement de la production.
Zoubana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Le monde aujourd'hui sur la voie de l'Amérique, place au sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Timothée, bonsoir à tous.
Bonsoir, donc Bagassi, les écuries du Bénin ont un nouveau sélectionneur, Bagassi.
Oui, il s'agit du français Didier Olé-Nicole. Il a été présenté à la presse lors d'une soirée de gala organisée par la Fédération béninoise de football à Cotonou. Et donc, Élisée Mpati nous en parlait il y a quelques instants dans Sporama.
Et puis, une mauvaise nouvelle pour le monde du football togolais.
Oui, l'ancien libéro et capitaine des Épervieux du Togo, Denke Kossi Oiseau, est décédé en France à l'âge de 56 ans. C'est ce que nous apprend le magazine Le Temps, cité par Foot Africa. Denke Kossi Oiseau, on se rappelle, fut désigné footballeur du siècle dans son pays. Et c'était en 2000.
De l'automobile avec le 40e rallye Bandama de Côte d'Ivoire qui a eu lieu ce week-end.
Oui, l'événement qui a connu la participation de grandes sommités du sport automobile mondial a été remporté par l'équipage Gary Chenes-Romain Comas. Écoutons les impressions à l'arrivée de Romain Comas.
Aujourd'hui, on a récupéré le temps que l'on avait de retard sur Maurice Ferré sous Mauro. Les trois spéciales que l'on avait étaient très très dures et très très longues, mais on a réussi à rester dans le rythme et puis reprendre ces secondes que l'on avait de retard hier soir.
Voilà, et pour terminer, Bagassi, des nouvelles de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, hier soir, Charlotte a battu Milwaukee 101-92. Victoire de Phoenix sur les Canadiens de Toronto 121-113. Houston tombe face à Miami 104-113. Les New Orleans Pelicans battent de justesse Boston 121-120. Sacramento chute in extremis contre Minnesota 104-102. Pas de chance pour Oklahoma City face à Dallas 86-109. San Antonio écrase Utah 122-104. Et puis enfin, Timothée, les Golden State Warriors l'emportent face à Portland 113-112.
Merci Bagassi.
Le monde aujourd'hui touche à sa fin et comme tous les soirs, on se quitte en musique. Destination le Sénégal avec un chanteur qui n'est plus à présenter. On écoute Youssou N'Dour, Africa Dream Again.
Wake up, stand up, Africa. Gëmal sa bop. Gëm ni nga doon doon. Lu bare nga am, lu bare nga man, manulo no peni. Imagine it's your wealth. Imagine how your dreams. Ce que tu as tout le c'est tiré histoire, manulo veni. Say way at say fetch, teranga say dom, manulo veni. Africa, leave again. Start to smile again. Africa, dream again. Wake up, stand up, Africa. Come on, some pop.
Voilà, c'était Youssou N'Dour, Africa Dream Again. Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde. Et puis on avait à nos côtés Timothée Donangmaï et Morgane Guiriec. On se retrouve demain.
again. Africa, leave again. Start to smile again. Africa, dream again.